Radio Pleine Lune, en deux femmes, tout de suite la suite du programme, Féminisme en RDA, et restez à l'écoute.
Bonsoir, Radio Pleine Lune, Ondes Femmes, 93.8 MHz. Nous allons discuter aujourd'hui un peu des femmes en RDA, plus particulièrement des féministes en RDA. Nous avons rencontré deux femmes féministes du groupe Lila Offensive le 8 mars dernier, lors de la Journée internationale des femmes à Bienne. Et nous avons envie de vous retransmettre ce qu'elles nous ont raconté. Mais tout d'abord, nous avons envie de vous donner quelques impressions très générales sur les résultats des élections qui ont donc eu lieu ce 18 mars à Berlin, en RDA. Alors, ce qu'on voit donc, ce raz-de-marée pour la CDU, les démocrates chrétiens ouest-allemands qui ont bien pris pied en Allemagne de l'Est et qui ont obtenu 40% des suffrages, plus avec tous les petits groupes qui les soutiennent, ils ont carrément 46%. La SPD qu'on croyait vainqueur à 22% et les petits groupes en fait qui ont initié le mouvement révolutionnaire en RDA Neues Forum ont eu que des petits résultats, c'est-à-dire un petit pourcentage de voix pour eux. Et les femmes là-dedans? Eh bien, nous avons vu que les femmes, c'est-à-dire, il existe, on vous en parlera plus tard, une fédération indépendante des femmes qui, lors de ces élections, se sont mis d'accord à soutenir le Parti Vert. Et le Parti Vert et cette fédération indépendante des femmes a obtenu 8 sièges dans le Parlement.
Il faut dire que bonsoir, on est deux. Isabelle et moi, Alda, ce soir à vous raconter un peu nos impressions sur ce qu'on sait, les peu de choses qu'on sait sur le féminisme en Allemagne de l'Est. Il faut dire que l'Alliance, comment elle s'appelle, l'Alliance... l'Alliance de droite, hein, elle a eu 193 sièges. Et puis les femmes, elles ont eu 8 sièges, là, pour donner une proportion. Mais c'est déjà quelque chose.
Donc, ce qu'on sait aussi, en fait, au niveau des femmes, donc ça, c'était la Fédération indépendante des femmes. Elle soutenait le Parti Vert. Il est évident qu'on ne peut pas parler en général, ça, c'est des femmes, comment elles ont voté. Mais il y a eu, ou il y a, des hypothèses, je n'ai pas encore vu des analyses plus précises là-dessus. Il semble que les femmes auraient assez largement soutenu l'ex-SED, donc le PDS, l'ex-parti communiste. Et il faut aussi dire qu'il y a donc des grandes différences dans le pays. On sait que Berlin-Est est resté traditionnellement rouge avec une proportion, je crois, de 38% SPD et 33% donc du ex-parti communiste. Et il semble que les femmes aient soutenu aussi ces deux partis-là et le parti communiste, vu que la SED, la PDS, donc ex-SED réformiste, a fait une campagne, va-t-il, extrêmement vive, extrêmement nouvelle, new look, et qui elle a extrêmement misé pendant cette campagne sur la perte des acquis sociaux que pourrait entraîner une réunification à la Kohl. Et il semble que les femmes, et les féministes le disent elles-mêmes, les femmes seraient extrêmement touchées par cette restructuration économique qui s'en suivrait. Donc, qui suivrait cette annexion, ou cette, on appelle ça réunification, mais il y a beaucoup, disons, de personnes en Allemagne de l'Est qui disent Anschluss, donc c'est un mot très fort, annexion et Anschluss, ça rappelle 1938, lorsque les troupes hitlériennes sont entrées en Autriche, bon, acceptées à bras ouverts.
Donc, nous sommes là pour parler de l'Allemagne de l'Est, parce qu'on a rencontré à Bienne le 10 mars, à l'occasion de la fête internationale de la femme. Il y a eu une manifestation et une journée organisée par les groupes de femmes suisses. Et là, il y a eu une table ronde où ont été invitées deux femmes de l'Allemagne de l'Est. Et ces deux femmes, on a pu les écouter dans cette table ronde, on a pu les interviewer, on a pu discuter pendant presque 2 jours avec, et puis on s'est un peu fait une idée, elles nous ont un peu transmis quels sont l'état un peu du féminisme en DDR. Donc il y avait deux femmes assez différentes.
Donc c'était deux femmes qui appartenaient donc à Lila Offensive, c'est un groupe féministe à l'intérieur de cette fédération indépendante des femmes. Il y avait Catherine Rundstock et Corinne Bold. Catherine Rundstock, si je me rappelle bien, c'est donc une femme qui a à peu près 27 ans. Elle est mère de 2 enfants. Elle se déclare en fait elle-même comme opposante, qui a toujours été opposante sous le régime de Honecker, sous le régime donc communiste. Elle a déjà été opposante. Elle habitait à l'époque à Jena, qui est une des villes universitaires d'Allemagne de l'Est. Et là, elle a pris activement part au mouvement pacifiste de l'université de Jena. Le mouvement pacifiste de Jena étant un mouvement pacifiste assez radical. Il répondait en fait au mouvement pacifiste des années fin années 70 en Allemagne de l'Ouest et puis à l'Ouest en général, et ils demandaient un démantèlement des armes tant à l'Est qu'à l'Ouest. Et ça, pour en Allemagne de l'Est, où vraiment, sans Union soviétique, il n'y avait pas d'RDA, c'était très courageux. Et ils ont été aussi réprimés. Elle dit qu'elle a frisé d'aller en prison et qu'elle est partie de Jena. Et là, elle a débarqué à Berlin. Et vraiment, non seulement ses pensées sont, si vous voulez, oppositionnelles, mais aussi son mode de vie. Mmh.
Oui, elle est, disons, elle a le style, ça pourrait être une féministe verte typique d'Allemagne de l'Ouest, disons comme ça, au niveau du look et de comment elle est dans son corps, comme elle, disons, c'est un style androgyne très forte, dans le sens, pas parce qu'elle est grosse, mais parce que on sent qu'elle est grande et robuste. Et puis bon. C'est un style comme ça, tandis que l'autre, c'est une femme qui vient de sortir du Parti communiste, donc avec tout un autre passé, beaucoup plus complexe, et puis c'est aussi, elle est un peu plus jeune, donc elle a un peu un statut social d'étudiante, plus rigide, plus, peut-être plus exigeante, mais plus rigide et moins libre et moins que cette Catherine qui était beaucoup plus proche d'un modèle féministe occidental.
Ce qui était intéressant quand même avec la deuxième, c'est que quand on lui a demandé en fait qu'est-ce qu'elle avait fait comme étude, elle nous a dit qu'elle était étudiante dans les sciences de l'islam. Alors pourquoi est-elle tombée dans les sciences de l'islam? Et là, on a en fait, comme quand elle nous a expliqué, je vais vous donner tout de suite son explication, en fait ça reflète énormément les réflexes que les gens ont pour qu'est-ce qu'ils choisissent de faire. Alors l'islam, pourquoi? Parce que ça se passe loin, l'islam. Et c'est en fait aussi une possibilité pour elle. Elle disait qu'elle avait l'espoir de sortir de cette RDA, parce qu'on doit savoir que ces deux femmes, hein, elles ne sont jamais sorties de RDA. Donc les deux, elles ont donc depuis toute leur vie, elles sont toujours restées pas en RDA, mais disons de l'autre côté du mur, comme on dit. Hein.
Mais quand on leur a demandé où elles allaient en vacances, elles ont dit en Roumanie, en Bulgarie, en URSS, Tchécoslovaquie, Hongrie. L'Hongrie, c'était un peu la préférée.
Voilà, hein? Voilà. Alors l'islam, d'aller faire des études sur l'islam, c'était d'apprendre une autre langue, d'apprendre l'histoire d'un autre peuple et peut-être avoir un passeport une fois dans la poche pour aller faire des recherches sur place. Et ça, c'était très présent dans cette demande.
Mais petite remarque, elle a fini ses études, mais elle n'a jamais été dans un pays islamique, elle n'est jamais sortie du pays. Donc elle était toute contente parce qu'elle allait justement cet été en Algérie.
Oui, à Bienne.
Ah oui, puis non, elle avait pu aller à Bienne. Mais disons, par rapport à ses calculs, par rapport à l'islam, ça n'avait pas tellement marché jusqu'à maintenant.
Voilà. Donc ces deux femmes étaient là pour nous présenter le mouvement des femmes et le féminisme en RDA. Alors tout de suite au niveau de qui elles sont, qui elles représentent à Lila Offensive, c'est déjà, disons, au niveau du nom qu'elles se sont donné, ça montre bien offensive. Lila, dit-elle, c'est donc violet, c'est la couleur des femmes, je l'ignorais, et que ça montre bien qu'elles se marquent très bien comme étant des féministes qui mettent en avant la cause des femmes.
Alors Lila, puis offensive, c'est aussi au niveau du langage, c'est très lié à l'Allemagne de l'Ouest, hein. Il y a vraiment des références. Mais ça, on n'a pas bien compris quels sont leurs rapports concrètement avec les féministes de l'Allemagne de l'Est. On a compris quels sont leurs rapports, qu'il y a des influences évidentes. Elles nous ont dit qu'elles ont très peu de possibilités de lire des livres, alors de leur envoyer tout ce qu'on pouvait, comme le livre sur la question des femmes en allemand. Donc, je pense que l'information passe, mais pas autant peut-être qu'on peut se l'imaginer. Elle passe peut-être à Berlin, mais alors après, le reste du pays, c'est encore autre chose.
Bon, les deux, donc, il faut bien savoir qu'elles sont à Berlin. Donc, ce qui est aussi intéressant quand même, elles ont un accès avec l'Ouest, c'est que la plupart de leurs tracts, de leurs publications ont été, en fait, édités par les mouvements de gauche ou alternatifs à Berlin-Ouest. Donc, Lila Offensive, c'est un des groupes qui fait partie de la Fédération indépendante des femmes. Cette fédération elle-même, donc, a été créée en décembre de 1989, le 3 décembre plus exactement. Ce sont plusieurs femmes qui venaient de différents horizons. C'est des femmes chrétiennes, des femmes pacifistes, des lesbiennes, des femmes qui étaient chercheuses à l'université, qui ont appelé toutes les femmes à venir se réunir le 3 décembre pour parler de la situation et de pouvoir, en vue en fait d'avancer la question de la femme dans ce mouvement de refonte ou de révolutionnaire qui se passait en RDA. Et à cet appel, il y a 1200 femmes qui sont venues, qui se sont donc rassemblées le 3 décembre et qui ont ensemble créé cette fédération indépendante des femmes et qui a, ils ont beaucoup travaillé à en fait écrire, rédiger un programme de cette fédération, et en février de cette année, elles se sont enregistrées officiellement avec leur statut, et comme ça, elles ont aussi pu apparaître dans tout le mouvement, non seulement de refonte, mais aussi dans la campagne électorale qui a eu lieu.
Et puis c'est vraiment une fédération de groupements autonomes, d'organisations de femmes qui étaient avant dans l'opposition, un peu à moitié clandestin, à moitié souterrain. Et c'est aussi en opposition au Verband officiel, c'est-à-dire à la fédération officielle des femmes, qui est un peu l'émanation, disons un peu celle et l'organisation des femmes communistes, qui est très hiérarchisée et qui est aussi en train de transformer, au dire de ces femmes qui nous ont parlé, elle est en train de se transformer, de se remettre en cause, mais qui garde quand même cette nature très hiérarchique, très formelle, et ce carcan de l'histoire qui fait que ces femmes, elles se reconnaissent pas dans cette fédération et elles se sont vite regroupées dans quelque chose d'alternatif. Et puis aussi le temps pressait parce qu'il y avait ces élections, donc tout a été accéléré, comme on dit, de l'autre côté, dans les pays de l'Est, tout va très vite. Et puis la preuve aussi du côté des femmes, ça a été très vite parce qu'elles ont publié des statuts, des programmes. Elles ont vraiment élaboré quelque chose de très riche en très peu de temps.
Donc cette Lila Offensive à l'intérieur de cette Fédération des femmes indépendantes, Fédération indépendante des femmes, c'est aussi, elles le disent bien, c'est en fait 15 femmes, disent-elles, ou 14 ou 15 femmes. Et il y en a beaucoup d'entre elles qui viennent du milieu universitaire et qui, en fait, veulent pousser une réflexion très approfondie, très avancée sur les femmes en RDA, sur les femmes en général, position des femmes dans la société. Elles ont des revendications, on vous en parlera plus tard, très, très, très avancées, qui elles ne sont pas suivies à 100% par toute la fédération, mais elles ont la possibilité, en fait, de se faire entendre. Et c'était en fait ça qui était leur but, c'est en fait de se faire entendre et se faire connaître.
Elles se définissent un peu l'avant-garde, entre guillemets, elles utilisent ce mot tout en rigolant un petit peu du coin de la bouche parce qu'elles sentent que c'est peut-être les derniers mois, les dernières années où elles utilisent encore ce mot parce qu'elles sentent qu'il est en train de leur tomber de la bouche aussi, comme quelque chose qui n'a plus beaucoup de sens. Mais on voit qu'elles sont vraiment en transition et puis qu'elles découvrent vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais bon, les espoirs qu'elles avaient, je crois qu'elles ont été un peu coupées par le résultat du vote. Je crois qu'elles vont... Ça va être... Bon, ce sera... On en parlera plus tard.
Und plapper schon munter im Westjargon. Und dennoch gibt es so Extras hier, die viel zu viel Seelengeld kosten. Da sag ich nee, nein danke, kein Bedarf. Ich bin noch auf anderes Leben scharf. Ich bleib immer die aus dem Osten. Immer die aus dem Für mich ist die Freiheit kein Arschwischpapier. Ich komm aus dem Land, da ist 2 mal 2 4. Ein Staatsgeheimnis, ja leider. Und jedes Kind, das dort die Wahrheit spricht, das hält man schon darum für ein großes Licht. Denn der Kaiser, er trägt keine Kleider. Und die Bonzen sind scharf auf die Posten. Dort stinkt die Macht, na und hier stinkt das Geld. Egal wo es mehr stinkt auf der Welt. Ich bleib immer die aus dem Osten. Immer die aus dem Ich tu und ich mach. Und ich leb wie du auch und stopf mir gern leckere Bissen in Bauch. Mein Stück aus der Wohlstandstorte, ich reiß es mir raus und ich passe mich an. Ich schufte mich ab und ich hasse mich dann, wie all diese Menschen im Porte, die bitter vom Zuckerbrot kosten. Und schimpft mich auch kein Schwein, ihr Türkenschwein. Ich bin ja ne Deutsche und darf hier sein. Und bleib trotzdem die aus dem Osten. Immer die aus dem kam. Und als mich der Grenzer beiseite nahm, da half mir kein Lächeln, kein Bitte. Da stand ich so elend vorm Posten. Ich hab geweint wie ein Kind und hab's geschnallt, denn die Lektion war ja klar und kalt. Ich bleib immer ich, auch vorm Posten. Immer die Außen.
C'était Eva Maria Hagen, Die Menschen aus dem Osten. Eva Maria Hagen, qui est partie en 1978, qui a dû partir de l'Allemagne de l'Est en Allemagne de l'Ouest, et qui a dit dans sa chanson que même si elle est maintenant en Allemagne de l'Ouest, qu'elle parle leur langue, elle a plus son accent de l'Est, elle reste toujours une femme de l'Est. Alors, on continue donc sur Radio Pleine Lune, Onde Femme, on parle du féminisme en RDA et on va vous parler de Lila Offensive, qui est ce groupe féministe dont nous avons rencontré deux femmes, Catherine et Corinne, qui nous ont raconté et qui nous ont expliqué en fait quel était leur but, quelles étaient leurs idées. Alors tout d'abord, après avoir parlé de l'origine du mouvement des femmes en RDA, parlons maintenant un petit peu de comment on voit, quelles sont en fait les revendications de Lila Offensive. Alors moi, j'en vois en fait deux. Une des revendications, dit-elle, de clé C'est la Gleichstellung. C'est, on peut en fait le mieux les, le traduire par l'égalité, l'égalité dans la société. Mais c'est, elles sont assez fines parce qu'elles disent égalité, c'est égalité des femmes entre elles.
Parce que c'est pas Gleichheit, hein.
Oui. Gleichstellung, c'est la... position égale, c'est-à-dire
c'est pas la parité. Reconnaissance. C'est pas la parité.
Non. Reconnaissance égale. Mmh. Donc, elle parle d'égalité, naturellement, entre hommes et femmes. Ça, c'est très important. Mais aussi, elle voit une égalité entre toutes les femmes. Et dans leur première prochaine phrase qu'elles disent, quand on demande mais qu'est-ce que c'est la Gleichstellung, elles disent, nous voulons abolir les privilèges qui sont liés au mariage, aux femmes mariées. Donc, les femmes, il y en a différentes, mariées, pas mariées, qui ont des enfants, qui en ont pas, et puis il s'agit d'elles. On veut pas, comme le régime, en fait, les séparer, parce que le régime, c'est vrai, il a énormément privilégié la femme mariée, la femme avec des enfants. C'est elle, quand il parle de femme, c'est ça qu'il voit comme image.
Parce que, par exemple, le droit au congé parental, je crois que il est seulement pour la mère mariées. Ou le père marié.
C'est ça.
Donc, ça me rappelle aussi les débuts des revendications du mouvement féministe dans les pays occidentaux. Il y a eu aussi ce besoin de faire reconnaître les droits des... Nous, on les appelait les mères célibataires, les mères seules, ou disons, tous les droits des personnes hors mariage. Et puis ça a passé. Il suffit de regarder en France les droits des concubins, disons... Ou bien toute la législation sur les mères. Même en Suisse, il y a une législation qui favorise la mère célibataire. Bon, bien sûr, c'est pas, elle a pas été faite d'un point de vue féministe. Elle a été faite pour protéger la mère abandonnée. Mais n'empêche que, bon, il y a quelque chose qui a été gagné.
Donc dans cette optique-là, donc il y a le congé parental hein, qui dans RDA, déjà le congé parental, comme tu le dis, est réservé aux femmes mariées, aux hommes mariés. Les femmes mariées peuvent le transmettre même à la grand-mère.
Ça c'est intéressant.
Les grand-mères peuvent prendre une année de congé si leur fille ou belle-fille.
Mais pas à leur compagnon non marié.
C'est ça.
Donc il y a aussi c'est le signe qu'il y a encore une structure très traditionnelle, des rapports très figés et traditionnels dans ce monde communiste.
Alors donc pour elle, c'est donc d'abolir la Gleichstellung ou l'égalité des femmes, c'est donc d'abolir ces différences. Et puis évidemment, c'est aussi toutes les revendications liées à la situation de la femme face à l'homme. Alors pour ça. Une de leurs revendications clés, c'est en fait l'introduction de quotas qui favorisent les femmes dans la formation, c'est-à-dire elles demandent que toutes les places d'apprentissage soient ouvertes aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
Avec obligation de respecter certains quotas. Donc, elles disent pas combien? 50-50,
j'imagine. Mais pour l'instant, c'est jusqu'à 50%, ouais. Au moins. Donc, des quotas dans la formation, dans les différentes métiers, et puis dans les différents niveaux hiérarchiques. Hein. Donc, elles demandent que, très fortement, que les femmes puissent accéder à tous les métiers. Les femmes sont là, elles peuvent faire tous les métiers et aussi elles devraient pouvoir accéder à tous les postes clés dans une
cadrement,
entreprise.
De direction, de cadre, en somme.
Alors ça, c'est une de leurs revendications centrales. Mais de celle-ci, cool, en fait, d'autres revendications ou d'autres analyses, je trouve, un peu approfondies. C'est pas seulement, elles disent que c'est évident que on ne peut pas revendiquer comme ça des quotas sans en même temps qu'il y ait d'autres choses qui se passent dans la société.
Von Welt, und sie Finger nach Frühling für Geld. Doch
von Anna das Fleisch und das Fleisch von Marie, das die Geldsäcke geil macht und flau in die Knie, gibt sich hin nur dem erstbesten Mann, der nichts isst und alles sein kann. Und die Spießer stehen wie doof da, Mann, das quält sie, ja, das quält sie. Solche schöne, ja, was wählt die, Gott, was wählt die? Einen Mann, der nix isst und nix hat, ja, die Spießer, da sind zerplatt. Diese aufgetakelten, morschen Fregatten, sie verkaufen den Duft, den sie früher mal hatten. Wird den Spießern der Hintern mal heiß, steigen sie ihm ins Bett, doof wie Eis. Doch von Anna das Fleisch und das Fleisch von Marie, das die Geldsäcke geil macht und flau in die Knie, ist für Trottel tabu, auch im Scherz. Für ein paar Kröten gibt es kein Herz. Und die Spießer stehen wie doof da, Mann, das quält sie, ja, das quält sie. Solche schöne, ja, was wählt die, Gott, was wählt die? Einen Mann, der nichts isst und nichts hat, ja, die Spießer, da sind sie platt. Diese Dämchen, ein haltbares Herz haben die, wie Papierblumen, haltbar verwelken sie nie, wie auf Gräbern, auf Blumen aus Stein. Wählt die, Gott, was wählt die? Einen Mann, der nichts isst und nichts hat. Ja, die Spießer, da sind zerplatt.
Nous écoutions Eva Maria Hagen, cette fois-ci dans un duet avec sa fille Nina Hagen. Radio Pleine Lune, ondes FM 93.8 MHz, vous êtes toujours sur ces ondes et nous parlons du féminisme en RDA, de groupe de femmes qui s'intitule Lila Offensive. Nous parlions tout à l'heure des revendications de ce Lila Offensive, dont nous avons rencontré deux femmes, et nous parlions justement de leur revendication de quotas en faveur des femmes dans tous les domaines de la société.
Oui, à côté de cette idée forte des quotas, donc de l'égalité un peu, ouais, cette idée d'égalité, Gleichstellung entre hommes et femmes, il y a aussi un autre point fort, idée forte, c'est l'idée de féminiser la société, de trouver, elle propose des mesures, des solutions pour féminiser la société qui est dominée par les hommes et qui est conçue et qui est créée par une culture masculine et par un pouvoir masculin. Donc, bien sûr, en premier niveau, il y a le problème de la division sexuelle du travail, donc de la participation des hommes au travail domestique et à la reproduction, aux activités de la reproduction. Il y a aussi la réorganisation de l'organisation du travail salarié en fonction de valeurs et une culture et de besoins féminins. Monde du travail qui a été organisé en fonction, elles disent, en fonction d'une biographie de travail masculine. Donc, c'est ce que toutes les féministes du monde ont, c'est les points sur lesquels tous les féministes du monde ont mis leur doigt. C'est le problème du double travail, des horaires, du temps différent entre le temps des femmes et le temps des hommes.
Donc, ce qui était intéressant quand elles ont dit que pour féminiser la société, il faut en fait introduire des mesures de contrainte, hein, pour obliger les hommes à prendre une part active dans l'éducation des enfants, dans le travail ménager. Elles voient ça aussi au niveau du travail. Elles disent que tous les domaines exclusivement féminines, donc dans le travail, si vous voulez, salariés, devraient être aussi ouverts aux hommes, c'est-à-dire que les hommes devraient maintenant vraiment aussi entrer comme infirmières, comme jardiniers d'enfants, partout, quoi, où les femmes sont majoritaires. Et quand nous leur avons posé la question, mais comment ces contraintes, Et elle disait, en fait, nous, on n'aime pas beaucoup ce mot de contrainte, mais on voit quand même en RDA, ça c'était de nouveau une analyse, en fait, de la société, elle disait, mais il y a de plus en plus d'hommes qui veulent ou qui seraient d'accord, en fait, de quitter leur travail productif pour, par exemple, prendre cette année parentale, de congé parental. Et elles expliquent ça. Parce que elles disent le travail productif tel qu'il existe en RDA, il est très peu attrayant. Les personnes qui travaillent, donc sachons aussi que les femmes en général travaillent 43h30 la semaine, que ce travail-là, il est monotone, même aussi pour les hommes, il est peu attrayant, on peut pas s'engager dans ce travail-là. Donc les hommes seraient beaucoup plus d'accord de le quitter pour une année, pour entrer, pour s'occuper des enfants, pour faire autre chose qui serait plus attrayant et puis aussi reconnu. Mais c'est évident qu'elle disait en même temps que pour que le travail, disons, ménager soit reconnu, il serait en fait bien qu'il soit payé.
Donc c'était étonnant, mais moi je pense que ces choses, c'était des considérations qu'elle faisait dans une discussion avec nous, avec des occidentales, et c'était vraiment des choses qui lui venaient, c'est ses convictions aussi, hein, c'est pas parce qu'elle voulait nous faire plaisir, parce qu'elle connaissait pas très bien nos points de vue à nous, donc c'était pas pour nous faire plaisir. Mais cette idée de payer le travail ménager, ou cette idée que tu disais avant, qu'il faut que les hommes n'entreront dans le monde des femmes, dans les travaux féminins, disons, cet échange, ne pourra se faire sans contraindre les hommes à le faire, sans mesure coercitive. Je ne sais pas si elle figure vraiment dans leur programme. Bon, elles nous ont passé leur programme, des petits programmes, des grands programmes. Elles ont des documents de toutes sortes, de tout gars. Elles ont beaucoup produit, comme on vient de le dire, on l'a dit tout à l'heure, depuis 2 ou 3 mois. Mais j'ai pas l'impression, je l'ai pas vu. Donc c'était quelque chose qu'elles ont derrière la tête, et puis c'est aussi ce qu'elles nous ont aussi dit, c'est que les programmes, les discussions sont le fruit de discussions dans des cercles assez restreints, donc ça m'étonne pas, parce que aussi le féminisme, un certain féminisme a aussi été très produit dans des cercles restreints aussi dans les pays occidentaux, et elles disent que aussi elles ont dû s'attaquer et mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à discuter les grands problèmes de politique générale, non? Elles ont dit ça, et que les problèmes spécifiquement de femmes, elles ont élaborés, elles ont beaucoup discuté, mais elles disent que la priorité était à répondre aux problèmes politiques qui se posaient au niveau des échéances électorales et ces échéances incroyables qui sont posées en quelques mois pour le pays, non? Donc, elles disent, on espère qu'après les élections, on pourra affiner et approfondir avec des femmes dans les quartiers, dans les lieux de travail, dans les lieux d'études. Ce discours féministe qui est vrai, elles l'ont aussi dit, il n'y a pas beaucoup de féministes en Allemagne de l'Est. Il y en a peut-être un certain nombre à Berlin-Est. Des féministes comme on les entend, comme Lila Offensive ou comme ces femmes regroupées dans ce Verband. C'est effectivement des cercles restreints, c'est une intelligentsia,
oui, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'en fait, elle traduisait ce que nous on a senti ici, mais elle le disait très très bien, ce problème de ces échéances extrêmement courtes. Hein. Elle nous disait en fait comment elle vivait, tu sais, quotidiennement, ce renouveau, ou même va plus loin de cette société en RDA. Concrètement, elle disait que pour elle, ça, c'est un stress permanent qu'elle ressente très fortement. Elles doivent aller de rendez-vous à un autre. Bon, les deux femmes, il faut bien le dire, là-dessus, elles ont réussi à s'arranger. Une, elle fait partie d'une table ronde. Il y a multiples tables rondes en RDA. Il n'y en a pas seulement une au niveau du gouvernement, mais il y en a au niveau des quartiers, au niveau des villes. au niveau des communes. Et puis là, une des Corinne, elle faisait partie en tant que représentait la Fédération indépendante des femmes dans une table ronde de quartier à Berlin-Est. Et elle avait pu, de son employeur, l'avait libérée pendant les horaires de travail pour aller là-bas. Elle avait tout son salaire qui lui était versé. Mais c'était pas une règle, ça. C'était vraiment juste son employeur qui avait été d'accord de lui octroyer ce droit. Mais donc ce stress, elle le disait, elles allaient donc de rendez-vous en rendez-vous, de réunion en réunion, elles pouvaient même pas trop lire, elles arrivaient pas à s'asseoir pour se reposer, pour manger. Elle disait que ce stress, il va jusque dans le sommeil, c'est que dans leur sommeil, elles rêvent des discussions politiques qu'elles ont eues ou qu'elles vont avoir, et elles sont remplies de ça, disons très fébriles.
Mmh. Puis elles ont aussi dit que au moment de l'ouverture du mur, il y a eu une effervescence, une explosion sociale dans laquelle les femmes ont participé, puis elles ont pris la parole, et puis elles étaient dans la rue. Mais elles sont assez vite rentrées à la maison, et puis elles ont sont restées en arrière. Puis c'est les maris qui se sont exprimés, qui se sont montrés publiquement au nom de toute la famille, en disant. Ils disent que ça, c'était assez visible. Hein. Puis une autre chose que je voulais dire, c'était par rapport à cette idée de féminisme, ça doit être très... Le féminisme, c'est aussi subversif maintenant qu'il est à sa naissance dans les pays de l'Est, comme il a pu l'être dans les pays occidentaux à ses débuts, parce que ça, l'idée de féminisme n'existe pas dans les partis communistes des pays de l'Est.
Féminisme est très péjoratif.
Oui, je pense que c'est une tare, hein, c'est une idéologie ou une idée encore étrangère à combattre. Et puis, elles nous ont raconté comment est fêté le 8 mars dans les pays de l'Est. Aussi, il y avait une femme yougoslave aussi. Elle racontait les deux. Il y avait une femme yougoslave et deux femmes de pays de DDR, elles concordaient les trois pour raconter qu'est-ce que c'est le 8 mars, c'est-à-dire c'est une fête institutionnalisée. Pour nous, c'est la fête du mouvement, de l'espoir, des revendications, tandis que pour eux, c'est la fête des mères. Hein, pour eux, pour elles, dans ces pays, c'est la fête des mères, mais elles disent c'est atroce parce que les hommes, les maris, les pères, ils achètent, parce que c'est institutionnalisé, c'est un jour de congé, ils achètent des cadeaux, ils ramènent des gâteaux, je sais pas, ils achètent des cadeaux, c'est une fête. Et puis, à la mère, à la femme. Et puis après, ils sortent et ils vont se saouler la gueule. Et c'est l'image, c'est le stéréotype, c'est le comportement commun de l'homme moyen dans les pays de l'Est. Il va se saouler la gueule, puis il rentre tard la nuit. Parce que c'est un jour de congé. Oui. Voilà. Donc, pour dire. Hein.
Donc, je pense qu'on va écouter encore de la musique et après, comme troisième partie, on va parler un peu de l'engagement de ces femmes, ces féministes dans la campagne électorale, ce qu'elles défendaient et, disons, leur action concrète sur le terrain.
Ich wollte's nicht haben, musste gar nicht erst nachfragen. Ich fress Tabletten und überhaupt, Mann. Ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, 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 warum soll ich meine Pflicht als Rat füllen? Für wen? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht. Vorbei war, geht mir zum Kotzen. Jetzt ist es Zeit, endlich mal aufzumotzen. Ich fress Tabletten und überatme. Ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, 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 warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen? Für wen? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht.
sein, muss ich mich erstmal selbst befreien. Und augenblicklich fühl ich mich unbeschreiblich.
Radio Pleine Lune, nous écoutions Nina Hagen. Nous continuons notre discussion autour de féminisme en RDA et nous allons vous mettre quelques, nous allons vous parler en fait de la campagne électorale des féministes en RDA, ce qu'elles défendaient. Alors le premier, la première chose qu'on puisse dire, hein, c'est que les féministes étaient assez claires, hein, à défendre les acquis sociaux de la RDA. Les acquis sociaux, c'est pour eux que les femmes...
Pour elles,
oui. Pour elles, que les femmes continuent à pouvoir avoir une place importante dans l'économie, dans le travail. Il faut savoir que en RDA, il y a 91% des femmes qui travaillent. Et il faut aussi savoir qu'elles travaillent 43 heures et demie par semaine. Donc, pour elles, il est évident qu'elles veulent défendre ces acquis. Les femmes travaillent et ça leur garantit, elle le disait bien, hein, une autonomie financière. Bien que dans tous ces acquis, dans tout ce qu'elles défendent, les acquis sociaux, il est évident qu'il y a toujours deux côtés. Il y a un côté positif, mais il y a aussi un côté négatif, c'est-à-dire...
Et très négatif, hein. Il y a un droit à défendre et puis il y a une réalité de comment ce droit est appliqué et vécu qui est assez noir, disons, comme bilan.
Donc, par exemple, dans le travail, ce travail, ces femmes qui travaillent toutes, elles disent d'un côté c'est vrai, mais que ça garantit une autonomie financière des femmes, mais il faut aussi savoir qu'en fait, le salaire des femmes est considéré par le régime quand même un salaire d'appoint. Il est quand même considéré que la femme, elle est mariée, elle a un homme qui paye, qui gagne plus. Mmh. Elles disent donc que une ouvrière, je lis là un tract qu'elles ont distribué pour les élections. Elle dit, savez-vous que une ouvrière sur deux en RDA est une femme, mais que les femmes gagnent un tiers de moins que les hommes.
Donc aussi ce droit au travail si généralisé, donc presque total pour les femmes, donc dans les faits, c'est pas seulement un droit inscrit, mais ça, ce droit au travail, c'est des femmes qui se trouve au bas niveau de qualification et de hiérarchie. Donc, c'est vrai que dans les ouvrières, un ouvrier sur deux, une femme. Mais je suis sûre que dans les cadres, c'est je sais pas combien. Et dans d'autres professions, ça, il doit y avoir des proportions très différentes. Donc, c'est vrai que cette égalité entre hommes et femmes, elle est vraie pour le bas de l'échelle, comme dans beaucoup d'autres pays socialistes, hein. En URSS, il y a des femmes qui balayent les rues, il y a les femmes maçonnes, il y a les femmes dans tous les métiers ouvriers. Et puis, cette femme que nous avons rencontrée de RDA, elle nous expliquait bien qu'est-ce que c'est cette égalité vécue dans la vie de tous les jours des femmes à laquelle toutes y tiennent. C'est cette idée que les femmes, elles peuvent faire comme les hommes. C'est pas tellement le fait qu'elles ont les mêmes droits, mais qu'elles peuvent faire comme les hommes, qu'elles ont la même force, les mêmes capacités, etc. Et cette idée, elle est vraiment, c'est le fait de 2-3 générations. Donc c'est un acquis et c'est quelque chose qui serait vraiment, difficile, disons triste et dommage de briser et de revenir en arrière là-dessus.
D'autres acquis sociaux, c'est donc les congés parentaux, le congé parental, le droit au congé parental, mais là aussi, comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, elle voudrait que le congé parental, il soit donné à toute mère, mariée ou pas. Et le troisième acquis social sur lequel elle mise beaucoup et qu'elle défend, c'est en fait les crèches. Hein. C'est-à-dire que en RDA, la plupart des enfants peuvent aller dans les crèches. Ou sinon, justement, il y en a celles où il y a... Ça, elle parle en fait de Berlin. Il faut bien aussi dire elle vient de Berlin. Donc, elle parlait avant tout de ce qu'elle connaissait dans une ville hein, qui a été extrêmement privilégiée en RDA par rapport aux autres villes du Sud. Donc, il y a la possibilité de trouver de la place dans les crèches. Sinon, il y a aussi, justement, les grands-mères qui peuvent prendre leur congé et qui peuvent garder les enfants. Mais là aussi, il y a un côté gris, noir de ces crèches. C'est-à-dire que Catherine, qui avait ses deux enfants, elle ne mettait pas ses enfants à la crèche. Parce qu'elle disait, la femme yougoslave qui était aussi là lors du débat avec les femmes RDA, l'a dit très crûment, elle dit en fait que ces crèches, c'est des fabriques hein, pour les enfants. Que très vite, les enfants sont encadrés, on les met dans des rails bien définis, que dès qu'ils sont petits, ils apprennent le nom des dirigeants, à chanter, à parler de la gloire du socialisme. Donc il y a une endoctrination qu'elle rejette totalement. Elle demande aussi, une de leurs revendications, c'est des crèches, mais nous voulons aussi que les parents puissent choisir, participer à quel genre de crèche, quel genre de prise en charge nous voudrons pour les enfants.
Elle racontait aussi comment était son enfance dans une crèche, pour nous donner une idée à nous qui ne connaissons pas l'Allemagne de l'Est, ou disons en tout cas moi je connaissais mal. Et puis elle disait, oui, il y a aussi une grande différence entre les crèches. Il y a des crèches riches et puis des crèches pauvres. Puis la majorité, elles sont pauvres. Et pauvres, ça veut dire il y a peu de matériel, il y a peu de personnel. Et c'est un peu glauque. Et puis surtout, il y a tout le contrôle du parti. Et donc tout le côté paramilitaire de gens de la crèche, dans le sens de la propagande, l'encadrement, disons, c'est pas des crèches anti-autoritaires, hein, comme certaines crèches ou de luxe, comme certaines crèches qu'on a pu gagner et qu'on a pu obtenir dans nos pays. Et elle racontait que par contre, la crèche où elle était, elle faisait partie, parce que les crèches, elles sont très liées au lieu de travail. Donc, elle faisait partie d'un complexe productif assez riche. Donc, sa crèche, elle était privilégiée. Il y avait une piscine. Et puis, ce qu'elle racontait aussi, qui est intéressant et qui montre quand même les conditions de vie et de travail des femmes dans ces pays, même si elles ont une vie assez dure du point de vue quotidien, des horaires, des contraintes, parce que elles travaillent très longtemps, puis elles ont la double journée de travail, parce que le partage du travail entre les hommes et les femmes, il est comme chez nous, sinon pire. Mais elles disent que les hommes, ils ont enfants, un peu plus que dans les pays occidentaux, mais ça, je pense que c'est encore un de ces idées qui viennent d'une espèce de bon. Je pense qu'elles se font des idées, mais elle racontait comment sa mère, par exemple, pouvait venir 2 ou 3 fois par jour la visiter et elle pouvait quitter son travail. Donc il y a aussi un rapport au travail. On dit toujours les pays de l'Est, ils sont peu productifs parce que il y a aucun contrôle, etc. Mais effectivement, du point de vue des femmes, il y avait des espèces de droits. On n'a pas compris si c'était inscrit dans la loi, dans le règlement d'usine ou comment ils étaient. À qui, mais et organiser ses droits, mais disons sa mère, elle avait le droit, par exemple, d'aller chez le coiffeur pendant les heures de travail, d'aller la voir 2 ou 3 fois par jour dans la crèche, parce qu'elle était à côté de l'usine, disons, elle était là. Elle dit, elle a un très beau souvenir de cette crèche, c'était pas l'horreur. Mais elle dit, il y en a, à côté de celle-là, il y en a 10, 20 qui sont assez critiquable, assez, disons, il y a beaucoup de choses à améliorer dans cette organisation des crèches. Et puis cette idée que effectivement il y a eu une période pendant les années 60 où les femmes, le temps de travail des femmes était, elles pouvaient prendre du temps pour le travail ménager, pour leurs tâches de mère. Bon, elles ont le droit d'allaiter pendant un moment, elles ont quelques droits inscrits, mais il y a aussi un droit qui s'est pris. Et c'est ce qu'on appelle manque de productivité, manque de discipline et de rendement, etc. Mais je trouvais très intéressant parce que c'était acquis. Elles pouvaient aller faire les courses chez le coiffeur et allaiter
pendant les heures de travail.
Et puis, il semble que ces 10 dernières années, il y a eu un tour de vis. Ça a un peu changé.
Donc, il y a déjà eu un grignotement des acquis sociaux. Ouais. Elles appellent ça, c'est des
acquis sociaux. Ça, c'est un acquis social. Moi, je le trouve tout à fait intéressant, cet acquis social. Si après, on veut... Si l'assainissement de M. Kohl, c'est d'empêcher les femmes d'aller voir leurs enfants dans les crèches pour augmenter la productivité, effectivement, je comprends pourquoi les femmes en DDR, en RDA, elles ont peur. Hein. Elles ont une peur qui est spécialement liée à leur situation.
Donc, découlant en fait de cette défense des acquis sociaux qui est en fait la première grande revendication lors de cette campagne électorale, c'était contre l'annexion, contre la réunification allemande précipitée. Elle pouvait pas être au fond contre, mais pas telle qu'elle est proposée par Kohl. Et là, il y a un tract, le tract du 8 mars. Donc, le 8 mars de cette année, Lila Offensive et les autres, la Fédération indépendante des femmes a organisé un 8 mars militant. Elle disait très colorée, très gaie, très offensive, comme elles disent. Et il y a 10 000 femmes qui défilaient dans les rues. Et c'était pas un 8 mars genre fête des mères qu'elles avaient connu jusque-là. Et dans ce tract, donc,
c'est beaucoup, 10 000 femmes. Hein.
10 000 femmes, c'est énorme.
Elle disait que c'était 7 000 femmes et 3 000 enfants.
Et j'aime bien ça. Donc, elle disait bien... Là, dans ce tract, elles disent « Défendez-vous contre le démantèlement social ». Elles expliquent tout de suite aussi « Nous ne voulons pas d'une société telle que la connaît la BRD, donc la RFA, où les femmes dans l'industrie gagnent 41,2% de moins que les hommes, que 1 mètre carré coûte 10 francs en moyenne pour le loyer, que 60,2% de toutes les femmes en RFA n'ont pas un minimum vital, et puis qu'il n'y a pas de programme de formation continue pour les femmes, et que 38% de toutes les personnes qui travaillent sont des femmes. Donc elles ont très très fortement lié cette revendication anti-capitaliste à la défense.
Elles ont peur d'être en première ligne dans les chômeurs, hein, dans ceux qui perdront leur place.
Parce
qu'effectivement, c'est les moins productifs, elles vont voir leurs enfants et puis elles vont faire les courses pendant les... Effectivement, mais moi, ça m'a plu, cette idée qu'il y avait quand même une forme de reconnaissance du travail domestique sur les heures de travail.
Qu'elles se sont volées, quoi.
C'est toléré. Et puis ça, c'est typique des pays de l'Est, en URSS. Ça prend des formes de caricature en Pologne aussi. Disons, les gens ont 2-3 travaux et un de ces travaux, un de ces emplois, c'est celui de faire la queue, etc.
La crainte que ce soit les femmes avant tout qui payent le prix de cette annexion, qui donc signifie aussi une mise au pas de cette économie hein, sur le modèle capitaliste. On ne sait pas encore de quelle forme il va prendre, ça va peut-être durer quand même quelques années, mais quand même c'est ça le but, que ce soit les femmes en fait dans ce projet qui payeront.
Et pendant la table ronde de Bienne, le 10 mars, il y avait une journaliste qui posait les questions à ces femmes d'Allemagne de l'Est et a demandé, alors peut-on dire que 40 ans de socialisme égale 40 ans de capitalisme pour les femmes? Elles ont répondu toutes non. C'est-à-dire, elles se refusent de faire cette comparaison et ce bilan dans ces termes.
Donc c'était le féminisme en RDA. Nous avons plus beaucoup de temps, nous causons et nous allons écouter Wolf Biermann.
So Raum von Kälte und von Feuer. Ach, deine Hüften sind so schmal wie deine breiten Straßen. Ach, deine Küsse sind so schal, ich kann dich nimmer lassen. Ach, deine Küsse sind so schal, ich kann dich nimmer lassen. Ich kann nicht weg mehr von dir gehen. Im Westen steht die Mauer, im Osten meine Freunde stehen. Der Nordwind ist ein rauer Berlin, du blonde, blonde Frau. Ich bin dein kühler Freier. Dein Himmel ist so hundeblau, darin hängt meine Leier. Dein Himmel ist so hundeblau, darin.
Radio Pleine Lune, Radio Zone 93.8 MHz. Nous écoutions Wolf Biermann. C'était une chanson Berlin, quelle belle femme. C'était en fait une chanson qu'il a écrite avant que le mur ne s'écroule.
Vier Kinderlieder, wir loben die guten Sozialisten. Erstens, die Verkäuferin. Verkäuferin im Konsum ist des Hauses guter Stern. Sie ist freundlich auch am Samstag, alle kaufen bei ihr gern. Wenn mal Butter knapp ist, dann führt sie sauber ihre Listen, damit dann auch jeder Mann seine Butter kriegen kann. Von den Kunden in der Straße kennt die Namen sie genau. Und sie sagt nicht nur mein Herr und sie sagt nicht gnädige Frau. Ausweis zeigen braucht man nicht, das ist nur für solche Pflicht, die noch fremd sind und die sie noch nicht so lange kennt.